Aujourd'hui, on se lance dans une exploration vraiment approfondie d'un texte antique, et plus particulièrement d'une stratégie de manipulation rhétorique qui a genre 2000 ans.
Ouais, c'est un sacré programme.
Ah ça, c'est clair. Donc notre sujet central, c'est l'épître romain de l'apôtre Paul, surtout le chapitre 1, des versets 18 à 32. Et pour disséquer tout ça, on s'appuie sur une source vraiment riche, c'est la quatrième session d'une série de conférences du théologien Craig Kinner.
Ce qui est génial avec les travaux du docteur Kinner, c'est qu'il nous plonge vraiment dans la psychologie d'un auditoire du premier siècle. Sans ça, on passe à côté de la mécanique du texte.
Exactement. Notre mission d'aujourd'hui, c'est de voir comment ce texte utilise le contexte gréco-romain pour tendre un piège redoutable à ses lecteurs et prouver que toute l'humanité a les mêmes failles.
C'est vraiment un coup de maître intellectuel.
Mais bon, avant de plonger dans le vif du sujet, il faut poser une règle de base très claire pour notre analyse.
Oui, c'est super important de le préciser dès le début.
Voilà. L'objectif ici, c'est absolument pas de prendre parti. On n'est pas là pour valider ou endosser les positions théologiques ou même morales de ce texte.
On est vraiment là avec notre casquette d'analyste impartiaux, quoi.
Totalement. On rapporte juste le décryptage historique et religieux du docteur Kinner. C'est un exercice de dissection historique pure et dure.
Et pour bien comprendre ce qui se joue là-dedans, il y a une analogie qui marche super bien.
Vas-y, je t'écoute.
Imaginez un maître illusionniste sur une scène. Il fait un geste hyper ample avec sa main gauche, avec des lumières, un truc spectaculaire. Toute la salle fixe cette main, hypnotisée, peut-être même un peu scandalisée.
Ah ouais, la fameuse stratégie de distraction, hein.
Droite, celle que personne ne regarde, est en train de préparer le vrai tour, le piège qui va tous les surprendre.
Et le texte de Paul fonctionne exactement comme ça. La distraction, c'est le moteur de son argumentation.
Pour comprendre comment le piège se referme, il faut d'abord regarder la prémisse de base que l'auteur installe.
Son point de départ.
Voilà. Le point de départ de Paul, c'est que la culpabilité humaine est universelle parce qu'elle vient d'une vérité évidente qui a été volontairement supprimée.
Il mentionne la colère de Dieu révélée du ciel, un truc comme ça, non?
Oui. Et il faut savoir que dans la rhétorique juive de l'époque, dire le ciel, c'était juste un euphémisme respectueux pour ne pas prononcer le nom de Dieu.
Ah, malin.
Donc il pose un cadre très clair. Il y a un mécontentement divin face à une humanité qui refuse de voir ce qui lui crève les yeux.
D'accord, décortiquons tout cela. L'argument commence par dire que la création, la nature, prouve l'existence d'un concepteur.
Le fameux argument du design intelligent, oui.
Et ce qui m'a vraiment surpris dans les votes du docteur Kinner, c'est que cet argument, c'est pas du tout une invention judéo-chrétienne.
Pas du tout, non.
Des philosophes romains et grecs, des stoïciens de l'époque comme Épictète, Cicéron, Sénèque, ils regardaient l'univers et concluaient très rationnellement qu'il y avait un architecte derrière tout ça.
Absolument. Les stoïciens croyaient fermement au logos. C'était une sorte de raison universelle qui ordonnait le cosmos.
C'était des pointures intellectuelles, quoi.
Et puis peut-être aller jusqu'à dire que quiconque observe la nature et nie un créateur, il fait preuve de stupidité. Donc la connaissance, il l'avait.
Mais du coup, c'est quoi la faille que Paul pointe du doigt s'ils étaient déjà au courant?
Le reproche, c'est que malgré cette réalisation purement intellectuelle, ces grands penseurs n'ont pas du tout tiré les conséquences de leurs propres conclusions.
Ils ont gardé leurs statues et leurs idoles, c'est ça?
Exactement. Leurs idoles de bois et de pierre.
Mais c'est précisément là que je bloque. C'est comme avoir le manuel d'instruction hyper détaillé, super rationnel pour construire un meuble, mais décider d'utiliser une chaussure pour enfoncer un clou.
C'est une excellente comparaison.
Pourquoi ces philosophes, s'ils voyaient cette rationalité, ils continuaient à sacrifier à des statues? Et pourquoi Paul s'acharne sur l'idolâtrie comme point de départ?
Ce qui est fascinant ici, c'est la fonction sociale et psychologique de l'idolâtrie dans l'Antiquité. C'était pas juste un choix spirituel privé.
Ah, ça allait plus loin que leur religion personnelle.
Beaucoup plus loin. Abandonner les dieux de la cité, c'était vu comme un acte de trahison politique et civique.
Ah ouais, carrément la trahison.
Les philosophes pouvaient théoriser sur un dieu suprême dans leurs écoles, mais sur la place publique, ils participaient au culte impérial pour maintenir l'ordre social.
Et pour un penseur juif comme Paul, cette compromission, c'est la racine absolue du mal.
C'est une transaction désastreuse pour lui. Échanger la réalité du créateur contre des images de créatures mortelles juste pour des raisons de confort ou de conformité sociale.
En gros, en supprimant cette vérité fondamentale, l'humanité distord sa propre capacité à percevoir la réalité.
Voilà. Et la stratégie rhétorique que Paul emploie pour dénoncer ça, c'est un emprunt direct à une tactique de l'Ancien Testament, celle du prophète Amos.
La fameuse technique d'Amos, dans les sources, c'est décrit comme une sorte de manipulation de foule. C'est génial.
C'est exactement ça, de la manipulation de foule.
Amos arrive et commence à hurler que le jugement va s'abattre sur Moab ou sur Ammon pour leurs crimes atroces. On imagine très bien son public, le peuple d'Israël, applaudir et crier « Ouais, punis nos ennemis !»
Ils flattent leur sentiment de supériorité morale, en fait. Le public jubile parce qu'il condamne les nations étrangères pour des crimes de guerre horribles.
Et une fois qu'il a toute leur attention...
Paf ! Il retourne soudainement son discours contre eux. Le jugement sur Juda, puis sur Israël, car ils ont été choisis et seront jugés pour leurs propres iniquités.
La douche froide totale.
Paul prépare exactement le même terrain. Il utilise des expressions subtiles tirées des psaumes 94 et 106 qui parlaient d'Israël échangeant la gloire de Dieu contre des idoles.
Donc un lecteur antique, bien attentif, aurait pu flairer le piège.
Peut-être, oui. Mais sur le moment, Paul garde l'attention de tout le monde en frappant hyper fort sur les pratiques du monde païen.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie vraiment pour la suite de l'argument? Puisque l'humanité a brouillé sa perception avec l'idolâtrie, c'est quoi l'explosion qui suit?
Le texte parle d'une chute en cascade, ce que les philosophes antiques appelaient la folie morale.
La folie morale, d'accord.
La conséquence logique de cet aveuglement volontaire, c'est que Dieu les, je cite, « livre à leurs désirs irrationnels ».
En gros, puisqu'on a déconnecté la raison pour adorer des objets, on perd le contrôle de ses propres passions. Les passions prennent le volant.
Exactement. Le docteur Kanner insiste beaucoup là-dessus. Paul associe directement la distorsion de l'intellect à la distorsion de l'image physique et morale.
Et il fait référence à la Genèse, c'est ça?
Oui, dans la Genèse, l'image de Dieu est liée à la complémentarité de l'homme et de la femme. Donc pour Paul, dévier de cette structure originelle, c'est le symptôme physique d'une maladie spirituelle très profonde.
Et il faut avouer que le contexte culturel de l'époque, bah, toute la mythologie païenne, ça tirait personne vers le haut.
Ah, pour le coup, c'était pas des modèles de vertu.
Les figures divines donnaient le pire exemple possible. Les sources parlent d'Hermès qui vole du bétail à sa naissance, qui soudoie un témoin et qui finit par le tuer froidement.
Sans parler de Zeus, le dieu suprême.
Mais grave, le gars passe son temps à enlever des femmes ou des jeunes garçons comme Ganymède.
Et son épouse Héra, incapable de confronter Zeus, se vengeait de manière ultra sadique sur les victimes de son mari. C'était un chaos moral total.
Les écrivains juifs de l'époque se moquaient ouvertement de ces mythes, non ?
Bien sûr, les apologistes utilisaient ces mythes comme des armes. Ils disaient en gros, comment vous pouvez prétendre être la civilisation supérieure quand vos dieux se comportent pire que des criminels de droit commun?
C'est fou. Mais le pire, c'est que ça justifiait les comportements dans la vraie vie.
Voilà le vrai drame. Ces mythes, c'était pas juste des contes. Ça fournissait un alibi, une justification cosmologique au mode de vie prédateur des hommes puissants.
Et c'est là que ça devient... vraiment intéressant. Parce que pour nous, aujourd'hui, l'Antiquité, c'est hyper romantique. On imagine des toches blanches, du marbre, la naissance de la philosophie.
La vision d'Épinal, quoi.
Exactement. Mais Paul, il écrit depuis la rue. Il réagit à ce qu'il voit tous les jours. Et les données historiques soulevées par Kinner, elles décrivent un cauchemar absolu.
Il faut vraiment déconstruire notre vision moderne. On parle d'une société fondée sur l'abus de pouvoir systématique et la marchandisation de l'être humain.
Dans l'Empire romain, l'éthique sexuelle, ça n'avait rien à voir avec nos concepts modernes, on est d'accord?
Rien du tout. Tout était dicté par la dynamique de domination. Le déshonneur pour un Romain, c'était pas l'acte homosexuel en soi, c'était de prendre la position de soumission.
La position soi-disant féminine ou passive?
Voilà, un homme libre devait dominer, un point c'est tout. Par contre, exploiter sexuellement des esclaves, hommes ou femmes, ou des jeunes garçons, c'était totalement légal et normalisé.
Le chef de famille, le pater familias, il avait littéralement droit de vie et de mort sur tous ceux sous son toit.
Droit de vie, de mort et d'usage. C'était terrifiant.
Attends, parlons justement du droit de vie et de mort, parce que la crise démographique mentionnée dans les sources m'a laissé sans voix.
Ah oui, l'infanticide.
La pratique d'abandonner les bébés, surtout les petites filles, sur des tas d'ordures, jetées dans la rue pour être mangées par des chiens ou des vautours. Est-ce qu'on a des preuves solides que c'était massif ou c'est juste des cas isolés?
Les preuves archéologiques sont massives. On a retrouvé des lettres de mari écrivant très calmement à leur femme enceinte « Si c'est un garçon, garde-le. Si c'est une fille, jette-la. »
C'est glaçant d'écrire ça avec autant de détachement.
Et le pire, ce sont les papyrus de recensement fiscaux en Égypte. Ils révèlent des statistiques effarantes, genre un ratio de 2 hommes pour une femme dans certaines régions agricoles.
2 hommes pour une femme? La seule explication, c'est l'infanticide sélectif à très grande échelle.
Tout à fait. Et c'est ici qu'intervient un concept fondamental développé par Kinner, les structures de plausibilité.
Ces espèces de cadres culturels qui nous dictent ce qui est normal ou pas.
Exactement. Comment des parents pouvaient jeter leur propre enfant au chien sans devenir fou ?
Ben ouais, psychologiquement, c'est impensable.
Parce que la société romaine, tout entière, ses lois, ses voisins, fournissaient une structure de plausibilité qui disait « c'est pas un meurtre, c'est de la gestion de patrimoine. Une fille coûte cher et n'hérite pas du nom. »
Ça rendait l'horreur rationnelle à leurs yeux. Et pour les bébés filles qui survivaient sur ces tas d'ordures, elles étaient récupérées pour devenir esclaves ou prostituées, c'est ça ?
Souvent forcées à la prostitution dans les tavernes, ouais. C'était un cycle de violence inouï.
Ce qui crée une réaction en chaîne dévastatrice. Avec ce ratio de deux hommes pour une femme, tu te retrouves avec des hommes grecs qui se marient très tard, vers 30 ans.
Avec des épouses qui sont encore des enfants, de 12 ans leur cadette.
Et ce mariage n'empêchait pas ces hommes d'utiliser les corps des plus vulnérables à côté. La société institutionnalise les bordels, la pédérastie, les esclaves. Un système de prédation glorifié.
Si l'on relit cela à la vue d'ensemble, on comprend pourquoi les écrivains de la diaspora juive regardaient Rome avec une horreur absolue.
Des auteurs comme Philon d'Alexandrie ou Joseph, c'est ça ?
Voilà, ils qualifiaient ces pratiques de « contre la nature ». Et c'est vital de préciser que quand Paul utilise cette expression « contre nature », il ne fait pas appel à la génétique moderne.
Il fait référence à l'ordre de la création, de la Genèse.
Exactement. Il s'oppose frontalement à cette immense structure de domination prédatrice qui dégrade l'image divine présente en chaque être humain, qu'il soit esclave, citoyen ou enfant.
Ce qui nous ramène directement à notre métaphore du magicien au début de l'été. Paul est sur scène. Sa main gauche bouge dans tous les sens.
Il vient de dépeindre avec une précision chirurgicale la sauvagerie et la folie morale de la société romaine.
Et son auditoire, deux cultures juives, hoche la tête avec véhémence. Ils sont outrés par ces abominations. Ils se sentent purs, supérieurs. Ils valident chaque condamnation qui tombe sur les Romains.
Le piège d'Amos est tendu.
Et c'est là que le piège se referme.
Le moment de bascule arrive. Paul écrit que Dieu les a livrés à un esprit adokimos.
Adokimos, c'est quoi ça ?
C'est un terme grec très précis de la métallurgie. Ça signifie « rejeter après évaluation ». Pensez à un testeur de pièces qui mord le métal, voit que c'est une fausse pièce et la jette au rebut.
L'esprit de l'humanité était testé et jugé défaillant.
Exactement, livré à lui-même. Et c'est à ce moment précis que Paul dégaine une arme rhétorique classique de l'époque, la liste de vices.
Ah, les fameuses listes de vices. C'était un peu le sport national des moralistes de l'Antiquité. On prenait les pires comportements et on les alignait pour faire trembler la foule.
Les philosophes et écrivains juifs adoraient ça. Philon en a même écrit une de plus de 100 défauts différents.
Plus de 100 verges, waouh.
Celle de Paul, ici, est minutieusement construite. L'auditoire, encore enflammé par la dénonciation des prédateurs, s'attend à entendre une suite de crimes sanglants, de meurtres atroces.
Mais le coup de génie, la main droite du magicien, c'est ce qu'il glisse discrètement à la fin de cette liste. Le retournement complet.
Après avoir parlé d'idolâtrie et d'abomination sexuelle, il liste soudainement des péchés d'une banalité consternante.
Des trucs du quotidien. Les commérages, la calomnie, l'envie, l'arrogance, la désobéissance aux parents.
Mais psychologiquement parlant, pourquoi il fait ça ? Pourquoi mettre le potin du village sur le même plan qu'un infanticide ?
C'est une attaque directe contre la psychologie de la supériorité morale. Les communautés religieuses créent souvent des hiérarchies de péché pour protéger leur ego.
Ah, on pointe du doigt les dérives énormes de la société pour se rassurer sur sa propre sainteté, c'est ça ?
C'est exactement ça. En intégrant les commérages ou l'avantardise dans la même liste que les pires crimes de l'Empire, Paul pulvérise complètement cette hiérarchie. Il montre que c'est la même racine.
La même racine de rébellion. Le refus de la vérité produit le meurtre chez l'un et la médisance venimeuse chez l'autre. Le mécanisme de destruction est identique.
C'est brillant. C'est comme regarder un documentaire fascinant sur les pires malfaiteurs de l'histoire, les pires tyrans, et se dire « Ouf, heureusement que je suis pas comme eux ».
Et là, la chute.
À la toute fin du film, le narrateur regarde la caméra, ajoute au dossier nos contraventions de stationnement impayées, nos petits mensonges, nos méchancetés de bureau. Et il déclare solennellement que la peine est exactement la même pour tous.
L'effet de sidération sur l'auditoire a dû être monumental.
Monumental, oui. Et cette sidération amène à la réalisation de l'hypocrisie.
Le docteur Kinner insiste lourdement sur l'aspect pastoral de cette stratégie. Ce passage n'est pas juste un manuel de morale abstrait. L'objectif, c'est de coincer les moralisateurs.
Il leur dit implicitement « Vous condamnez l'idolâtrie des Romains, mais vous tolérez la calomnie dans vos propres maisons ».
Et cette hypocrisie les rend encore plus coupables. La logique théologique derrière, c'est que la connaissance accroît la responsabilité.
Ah ouais ? Ceux qui connaissent la vérité et s'en servent juste pour juger les autres.
Non, aucune excuse. La main droite du magicien vient de retirer le tapis sous les pieds de l'humanité entière. Il n'y a plus de païens dégénérés d'un côté et de justes de l'autre. Il n'y a que des humains pris au piège qui ont un besoin vital de grâce.
C'est un voyage intellectuel d'une puissance incroyable. On a commencé avec des stoïciens contemplant l'univers, incapables de renier leur statut à cause de la pression sociale.
Ensuite, on a vu la brutalité crue des rues de Rome.
La tragédie des petites filles jetées aux vautours parce qu'une société entière avait rationalisé l'horreur. Et finalement, le coup de maître de Paul Fantsay utilisait l'indignation légitime de son public pour lui tendre un miroir implacable.
Pulvérisant toute prétention à la supériorité morale. C'est la force des grands textes antiques. Ils diagnostiquent des mécanismes psychologiques qui ne vieillissent jamais.
S'absoudre de ses petits travers en condamnant bruyamment les grands crimes des autres, c'est une constante humaine. Ce qui nous ramène, pour conclure, à cette idée des structures de plausibilité.
Un concept clé pour comprendre notre propre époque, d'ailleurs.
Absolument. La société romaine justifiait l'exploitation sans sourciller. Les auditeurs de Paul justifiaient leur supériorité hypocrite. Et la question inconfortable s'impose pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Quelles sont nos propres structures culturelles ?
Qu'est-ce qui nous aveugle au quotidien ?
Exactement. Qu'est-ce qui nous aveugle au point de tolérer nos propres commérages destructeurs et nos égoïsmes tout en gardant notre index pointé avec une indignation vertueuse sur les scandales de l'actualité ? L'illusionniste a quitté la scène, mais le miroir, lui, est toujours là.